Vous écoutez Music Story Rock avec Alain, Willy et Jean-Pierre.
Musique.
Flashback souvenir. Ambiance. RTVFM.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Music Story Rock, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les légendes de la musique pop-rock des années 70, 80 et 90. Salut Jean-Pierre, salut Willy.
Bonjour Alain.
Salut Alain. Oui.
Ravi de vous retrouver tous les deux pour ce deuxième numéro. Voilà, deuxième numéro, on peut peut-être donner un petit peu le sommaire de ce numéro parce qu'il y a du lourd, du très lourd même ce soir dans ce deuxième numéro. Alors entre autres, il y aura In Excess, Ike et Tina Turner, Titanic, Seawolf, il y aura Johnny Hallyday, il y aura du français. Ben oui, merci Jean-Pierre en tout cas de mettre un chanteur français parce qu'on l'oublie, mais le pop rock, il y a aussi des chanteurs français effectivement. Merci de rendre hommage à Jojo. Il y aura Suzy Quatro, les Doobie Brothers et il y aura Free, donc que du lourd ce soir en tout. 12 morceaux pendant une heure. On va essayer de vous régaler. Nous, en tout cas, quand on a préparé l'émission, on s'est régalé. On aime bien réécouter ces titres. Des fois, certains sont oubliés, même moi. Je reconnais, je dis tiens, celui-ci, il y a très longtemps que je ne l'avais pas écouté. Puis quand je vois aussi la programmation pour toi, Willy, hein, des gros tubes aussi, et certains qu'on a tendance à ne plus écouter ou ne plus entendre depuis des années.
Oui, mais sur les voilà, c'est le but. Ça, notre émission, normalement, c'est de faire découvrir des morceaux très anciens. Oui. Il vaut mieux aller faire un petit tour dans les années. Et puis que ça donne du plaisir à tout le monde.
Quand même du plaisir à tout le monde. En tout cas, je crois que c'est toi, Jean-Pierre, qui commence
avec
un groupe très, très connu, un gros groupe qu'on regrette parce qu'ils se sont séparés il y a déjà de nombreuses années. Je ne pense pas qu'ils remonteront un jour sur scène, mais malgré tout, on est ravis ce soir que tu puisses en parler. C'est In Excess, je te laisse la parole.
C'est In Excess, oui, avec Original Sin. Alors, le morceau est sorti en décembre 1983 à single. Elle est interprétée par le groupe australien donc In Excess, composé par Andrew Farris et produit par Neil Rogers. Le chanteur et parolier a déclaré que le morceau parle de la façon dont les enfants sont conditionnés par la croyance transmise par leurs parents, de la manière dont on gravit à travers ses idées ou bien en s'en débarrassant, en se forgeant ses propres idées. Le chanteur américain Darryl Hill a été invité à participer au cœur du morceau. Le single connaît un grand morceau, un grand succès, et il a atteint ainsi la première place des classements australiens au début des années 1984 et contribue à faire connaître le groupe internationalement, notamment en France, où il entre au top 5 durant l'été 1984. Il passe cependant inaperçu au Royaume-Uni où le groupe ne commencera à trouver un succès à partir de 1986. L'album est sorti en 2010 par In Excess où le groupe réinterprète plusieurs de ses succès et nommé Original Sin en référence à la chanson. En 2010, In Excess accompagné du chanteur américain Rod Thomas et de sa rappeuse cubaine DJ High Ladies enregistre une nouvelle version de Original Sin qui arrive en tête du classement des titres les plus diffusés en discothèque aux États-Unis. Nous allons écouter Original Sin d'In Excess.
Bienvenue en plein cœur de la musique. Flashback souvenir. Ambiance.
RTVFM. You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed? It's held by many.
Voilà, c'était bien sûr In Excess Original Sun. Alors, In Excess, le 12 avril 2012, ben c'est 15 ans après la mort de son chanteur charismatique Michael Hutchence, que le groupe rock australien bon, s'est séparé le 12 voilà, de cette année-là. Ben, effectivement, ben ça fait déjà quelques années. On aura plus l'occasion sûrement de les revoir sur scène, bien que des fois les groupes se reforment au gré des années.
On oléogramme.
Oui, un plaisir.
Allez, Willy, je te cède la parole.
Allez, alors, pour mon premier titre, j'ai choisi un duo américain très célèbre, Ike and Tina Turner, composé du guitariste Ike Turner et la chanteuse Tina Turner, bien évidemment. Spécialisé dans le rhythm and blues, le duo a connu une certaine renommée dans les années 60 et le début des années 70. Ils enregistrent de très nombreux albums, 20 exactement, sous de multiples labels, dus au caractère très prononcé et instable de Monsieur Ike. Par suite de problèmes relationnels, l'addiction d'Ike à la cocaïne le rend violent. Le couple, dans les années 80, divorce et chaque membre entame alors une carrière en solo. Si Tina Turner devient dans les années 80 la reine du rock'n'roll et l'une des artistes les plus populaires au monde avec des ventes dépassant les 180 millions d'albums, Ike, lui, dont les albums sont des échecs, ne renouera avec le succès que sur le tard en remportant le Grammy Award du meilleur album de blues traditionnel avec Rising with the Blues quelques mois avant sa mort le 12 décembre 2007. Ce titre est extrait de leur 17e album du même nom, il porte exactement le même nom et il s'appelle tout simplement Nutbush City Limits à Tina Turner et c'était en 1973.
De votre tube préféré.
La radio de votre tube préféré.
RTVFM.
RTVFM.
A school.
Voilà, c'était la grande Ike avec Tina, le grand Ike avec Tina Turner à l'instant. Allez, maintenant, je change un petit peu de registre. Je vais vous parler d'Alan Miles, qui est né le 25 décembre 1958 à Toronto, au Canada. C'est une auteure-compositeur-interprète canadienne. Elle grandit à Toronto où sa famille possède un ranch et où elle apprend le cheval. Elle écrit sa première chanson à l'âge de 8 ans, appelée Ugly Little Cabbage in the Garden, ce qui veut dire vilain petit chou dans le jardin. Voilà, dédié à sa sœur qui l'a taquiné. Plus tard, elle s'offre une guitare Ovation afin de jouer dans les divers clubs et cafés. À 18 ans, elle commence à se produire dans le sud de l'Ontario. Elle rencontre finalement Christopher Ward, avec qui elle forme un orchestre et exécute des chansons de fond pour Aretha Franklin, Bob Seger et The Pretenders, et rien que cela. En mai 1989, elle sort son premier album éponyme, Alana Miles, puis elle part en tournée internationale pour 18 mois. L'album est certifié disque de diamant au Canada après s'être vendu à plus d'un million d'exemplaires. Elle devient la seule artiste canadienne à avoir décroché ce prix pour un premier album. Ce premier album aurait été vendu à 6 millions d'exemplaires à l'international. Et dans cet album, 4 chansons ont été classées au top 40, donc Black Velvet, devenu un hit mondial. Il a été classé numéro 1 pendant 2 semaines au top 40 aux États-Unis. Ce dernier titre permet à Miles de remporter en 1991 le Grammy Awards dans la catégorie meilleure performance vocale rock féminine. Black Velvet est dédié à Elvis Presley. Voilà, on revient dans le rock, tu vois. Jean-Pierre, toi qui es un fan de rock, de rock and roll, Black est dédié donc à Elvis Presley. Rockeuse de charme, ex-mannequin, effectivement, quand on la voit sur les couvertures. Ses costumes de cuir noir en première partie de Robert Plant, Tina Turner ou Simple Mind ont certainement contribué à sa consécration. Et en 2008, à 50 ans et plus de 10 ans d'absence médiatique, elle reprend son titre le plus connu que nous allons écouter, Black Velvet, pour enregistrer un album du même nom avec une voix n'ayant toujours pas pris une ride à 50 ans. Effectivement, je l'ai écouté, la voix...
Elle n'a pas pris une ride.
La voix n'a pas pris de ride.
Ah, la voix. Ah,
bon, elle en a pris un petit peu, mais la voix est la phénoménale, ouais. C'est exactement la même voix. Voilà.
Donc, on elle écoute, a dû me prendre des rides. Mais...
On écoute, oui, on écoute Black Velvet de chanté par Alana Miles.
Soft rock, just soft rock.
Music Story.
On the big tree.
Voilà, c'était Alan Miles. À 19 ans, il change son nom de famille en Miles après avoir décidé de poursuivre une carrière dans le spectacle. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une très grande carrière. Et peut-être ce que vous ne savez pas, que j'ai appris également, elle a joué dans Les Jours Heureux.
Ah,
elle a eu un rôle dans Les Jours Heureux. Ouais, la série Les Jours Heureux, ouais, tout à fait.
D'accord.
Alan Miles, voilà, tout à fait. Alors, elle chantait pas, c'était pas une chanteuse, mais elle a eu un petit rôle dans cette série bien connue qui a été diffusée non-stop pendant de très très nombreuses années.
Oui, Les Jours Heureux.
À la télévision. Et ça fait quelques années qu'elle n'y est
pas. Enfin, pour les gens de notre génération, parce qu'aujourd'hui, tu en parles.
Il y en a beaucoup qui connaissent pas.
Voilà, en tout cas, voilà pour Alan Miles. Allez, je te cède la parole, Jean-Pierre.
Allez, ben, on va écouter Kate Bush. The Quick Inside. Alors, c'est un morceau qui a été écrit par Kate Bush en 1975 et sorti en février 1978. Il est le premier album studio de l'artiste et musicienne britannique. L'album a cumulé au troisième rang du classement britannique et a été certifié disque de platine par la British Phonographic Industry. Ce succès la fit entrer dans le livre Guinness des records en tant que première femme de l'histoire à avoir écrit toutes les chansons sur un album, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Depuis l'âge de 11 ans, Kate Bush a enregistré plusieurs démos avec ses frères qui ont été aussi musiciens. Un de ses amis, Rick Hopper, a apporté certaines de ses bandes à diverses maisons de disques en 1972, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elles n'ont pas été retenues, mais Hopper les a faites écouter à David Gilmour, un de ses amis. Il rencontra la famille Bush impressionnée par le talent. Il a financé lui-même pour qu'elle fasse des enregistrements. Il a proposé à la maison de disques EMI les enregistrements et furent impressionnés et lui offrirent 3 000 $. Deux de ses démos furent enregistrés en juin 1975. Et figure sur son premier album en 1976. Sa famille a finalement accepté le contrat de Kate qui a continué à composer des chansons. En prévision de l'enregistrement, elle a commencé à jouer avec le Kate Bush Band dans plusieurs pubs. Selon son frère Paddy, qui a également joué avec elle sur scène, ses concerts ont commencé comme des simples performances avec un peu d'intérêt, mais ont ensuite grandi au fil des mois. En juillet et août 1977, le reste des morceaux ont été enregistrés au studio R au Royaume-Uni. En décembre 1978, elle a fait une apparition dans l'émission américaine Saturday Night Live. L'album a cumulé à la troisième place du classement britannique des albums et est resté sur le chart. Pendant la majeure partie de l'année, on peut écouter le morceau.
By the time you read this, I'll be well.
Voilà, Kate Bush qui aura 64 ans au mois de juillet. Et en plus, là, je vous le livre en exclusivité. La chanteuse se serait mariée ce week-end, le week-end dernier. Ben oui, oui. Un article de People and Life Londres, daté donc du 14 mars, rapporte en effet que Kate Bush serait mariée en catimini le week-end dernier. La nouvelle risque de faire des déçus si elle se confirme. Mais on ne sait pas avec qui, mais elle se serait mariée à 64 ans. Voilà, elle aura 64 ans au mois de juillet.
Kate s'est mariée en catimini.
Un catimini, bien le jeu de mots.
C'est toi qui l'as fait. Bien.
Et il y a une nouvelle tournée, un nouvel album qui est prévu en tournée mondiale en 2022. Elle remonte sur les planches, Kate Bush, comme quoi le mariage, ça l'a rajeuni. Et hop, elle repart sur les planches.
Voyons.
Allez, Willy, à la suite.
Allez, la suite. Un autre morceau. Le morceau suivant a été composé par un groupe de pop psychédélique français. En fait, un groupe de musiciens de studio dirigé par Eli Robert Fitoussi. Si ce nom ne vous dit rien, eh bien je vais vous aider un tout petit peu. En fait, il avait créé ce groupe avec lequel il n'a fait qu'un seul album en 71, d'où est extrait ce titre. Il est revenu bien plus tard en solo, en 1983, avec un titre planétaire qui s'appelle Words. Et là, évidemment, voilà, pour les connaisseurs, vous avez reconnu Monsieur Fitoussi, qui n'est autre que F.R. David.
Ah d'accord.
Ah oui.
Eh oui, Words.
C'est fait tout
ça. Oui, Alain, tu écoutais pas. Bon, c'est pas grave.
Je pensais pas que c'était. J'écoutais, mais.
Eh bien, c'était F.R. David et c'est lui qui avait créé le groupe que vous allez écouter. Ils ont sorti cet album sur le label belge Sugar Plum sous le nom de David Explosion, ce qui explique pourquoi ils sont souvent confondus avec un groupe belge. Cockpit était le nom utilisé pour toutes leurs sorties en dehors de la Belgique. Allez. Et rappelez-vous, le morceau c'est Fifi et le titre du groupe ou le nom du groupe c'est Cockpit. Écoutez bien Monsieur F.R. David en fond. I'm je vous jure, c'était pas nous.
Morceau peu connu, mais bon morceau, Cockpit Fifi.
Morceau non, excellent. Non, oui, très connu. Non, non, mais je disais, non. C'était pas nous qui crions.
Hein. Non, c'était les groupies. Les groupies qui
crient. Les groupies derrière, qui étaient à la porte.
En tout cas, morceau très sympa, mais pas très effectivement connu, comme tu nous le disais en off, c'est un seul album.
Tout à fait. Et qu'ils ont fait en Belgique en plus.
Ils ont fait en Belgique en plus.
Pour des Français. Hein.
Allez, maintenant on part en 68. Donc nous sommes en 68 à Londres et les groupes se font et se défont plus rapidement qu'un chorus de guitare de Jimmy Page. Ainsi, Paul Kossoff a pris un apprentissage de guitariste classique et Simon Kirk débarque sans vergogne. Paul Rodgers et Chip Andy Fraser aux Brubakers de John Mayall à l'instigation du bluesman Alexis Corners qui de plus estime que le nom de Free ferait très bien dans le panorama. Donc vous l'avez bien compris, je vais vous parler du groupe Free.
La formation
initiale. De Free donne son premier concert le 19 avril 68 dans un pub de Battersea, faubourg de Londres. Ils ont de 15 à 17 ans et vont conquérir le monde. C'est au mois de novembre de la même année que sort le premier album du groupe. 10 chansons succès timides et de strictes obédiences blues rock qui permettent toutefois d'installer le son de Free. En 69, le groupe édite son album éponyme, produit par le propriétaire du label Iceland en personne, Chris Blackwell, qui fera énormément pour la carrière de Bob Marley. Et oui, c'est lui qui a lancé la carrière de Bob Marley, Chris Blackwell. Au mois de juin 70, l'album Free Fire and the Weather dévaste tout sur son passage. Deuxième des classements britanniques, 17e des charts américains, en particulier grâce au tube planétaire que nous écouterons juste après, All Right Now. Numéro 2 en Grande-Bretagne, numéro 4 dans le classement aux États-Unis et numéro 1 dans 20 pays. La chanson est plus tard reprise par The Runaway, Rod Stewart ou Michael Field. Deux mois plus tard, Free triomphe devant les 600 000 spectateurs du festival de l'île de Wight. L'île de Wight, ce gros concert qui a duré plusieurs jours. Au mois de décembre de la même année, Hideaway, quatrième album du groupe, est une déception commerciale malgré d'évidentes qualités artistiques. Après une multitude de tensions, le groupe Free produit en octobre 72 son ultime album, Heartbreaker, malgré ses réelles qualités. Il n'empêche pas la dissolution définitive du groupe en 1973. Le groupe britannique Free peut être considéré comme l'un des passeurs du pop-rock des années 60 et l'artisan d'un hard rock. Malgré un parcours erratique et le décès prématuré du guitariste Paul Kossoff en 76, Free reste dans l'histoire comme l'auteur de 7 albums de très bonne tenue et d'un tube mondial que nous allons écouter maintenant, qui date de 1970, All Right Now.
Soft rock, just soft rock.
RTVFM.
Then she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you hesitate. Let's move before they raise the parking rate.
It's all baby, it's all right now.
Voilà, All Right Now, un refrain qui reste dans la tête, qu'on chante régulièrement en tout cas. Ce morceau que vous avez écouté, c'est la version single, elle est plus courte que celle présente sur l'album. Donc si vous allez sur les plateformes légales, que vous voulez écouter celle de l'album, il y a une superbe version, même si celle-ci a été remasterisée, elle est d'une qualité déjà très bonne, si vous voulez écouter ça, ouais, excellente. Mais vous avez la version album qui est aussi excellente et qui est beaucoup plus longue de ce morceau, voilà, très connu et qu'on a toujours plaisir à réécouter All Right Now. Allez, on passe un artiste de plus, je crois que c'est toi, Willy, ou c'est Jean-Pierre?
Non, c'est moi. C'est Jean-Pierre.
Bon, alors c'est Jean-Pierre qui va nous présenter l'artiste qui
n'est pas connu ou qui n'était pas connu à l'époque, je ne sais pas. Bon, je m'appelle Jean-Philippe Smet. Et oui, je suis né dans la rue en juin 1943 à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny Hallyday. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir et souvent ma mère travaillait la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. J'avais un cœur dur comme de la pierre. Je commençais ma vie parce que je suis né dans la rue. De 1969 à 1974, je suis né dans la rue, reste inscrite autour du chant du chanteur. Il termine son récital du Palais des Sports en 1969 avec le morceau et avec un certain soir entre deux couplets, un medley de rock'n'roll. Il restera jusqu'en 1971, le final de ses concerts, puis il jouera jusqu'à l'été 1974 en ouverture des concerts et sera suivi de Fils de Personne pour faire une rétrospective de sa vie. Après la tournée d'été, le titre n'est plus joué durant 16 ans. En 1984-85, il est inclus dans un medley pour un récital. En 1990, il est joué en introduction d'un nouveau spectacle à Bercy. Depuis, Johnny Hallyday l'a régulièrement inscrit dans ses tours de chant. On écoute ce morceau de Johnny Hallyday.
Soft Rock on your radio.
J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. respect, je tigne chez les rois. On me choisit mes amis, les meilleurs qui soient. On voudrait me faire changer, mais c'est une grosse perdue. Vous perdez votre temps, je reviendrai à l'armée. Parce que je suis né dans la rue, oui, je suis né dans la rue, dans la rue.
Ah ça, ça déménage, c'est du Johnny, ça déménage bien. Une information concernant Johnny, une actualité de Johnny par Johnny, c'est Netflix qui lance fin mars sa série documentaire sur l'icône du rock français, le géant américain, donc du streaming vidéo, a annoncé la sortie donc, de cette série documentaire qui s'intitule Johnny par Johnny, dédiée au chanteur, donc Johnny Hallyday, mort en décembre, je le rappelle, 2017. On attend de
déjà,
voir un petit peu.
Déjà.
Oui, déjà.
Déjà, ouais.
On attend de voir un petit peu cette série, donc ce que ça va donner, cette série fin mars sur Netflix, sans faire de la pub à Netflix, mais voilà. Vous avez l'information, il y a également concernant Johnny à Épernay, une boutique en région parisienne, donc musée consacré à Johnny Hallyday qui vient d'ouvrir ses portes, donc c'est tout, tout récent, voilà, une boutique musée consacrée à Johnny à Épernay,
ouais.
Pour continuer à faire vivre la mémoire du Jojo, oui. Je crois qu'il y a eu plus de 1000, il a chanté plus de 1000 morceaux, c'est énorme,
à peu près, oui,
énorme.
Quant au nombre de fois, alors là, il n'y en a plus.
Allez.
Pas continuer.
Et nous, on va pas couler parce qu'on part, je crois que c'est Titanic, mais c'est pas le bateau là. C'est pas,
non, c'est pas le bateau, non, celui-là. Allez. Bon, il a coulé quand même.
Il a coulé quand même.
Il a coulé quand même, mais c'est pas le bateau. Et bien justement, on va rester en Europe parce qu'on parle beaucoup de. Là, Johnny, c'était l'Europe, hein. C'était la Belgique et la France, lui, il avait les deux. Et d'habitude, on parle beaucoup de l'Amérique. Et bien non, on revient en Europe. Au début des années 70, la Norvège étonne la planète rock avec l'arrivée d'un nouveau groupe appelé Titanic, qui fut le premier et l'unique groupe rock norvégien à avoir une certaine notoriété sur le plan mondial. Composé du percussionniste-chanteur Kjell Chapi Asperud, du guitariste-chanteur Jane Lozette, du batteur John Lork et de l'organiste Kenny Haas, leur premier LP Sea Wolf oscille entre pop-rock et rock psychédélique. Le groupe est formé en 1969 à Oslo, en Norvège, très influencé par la nouveau. Oh là, je recommence. Très influencé par la mouvance rock psychédélique de l'époque, ils agrémentent en musique de percussion et l'on n'est pas très loin du Santana de ses débuts. Le groupe continue à enregistrer des albums sur des labels indépendants, mais tombe dans l'oubli. Il continue ainsi de donner des concerts jusqu'en 1984, avant de se séparer. Le groupe, je vous l'ai dit au tout début, et Alain l'a dit juste avant, c'est Titanic, avec un énorme morceau de leur répertoire, c'est Sea Wolf. On y va.
Soft rock, just soft rock on your radio.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Rock Music Story Rock avec Jean-Pierre, Willy
et Alain. Et
merci. Voilà, et on continue. Donc, on fait un petit peu le tour des années 70, 80, 90 de toute la légende des artistes pop rock. Et là, je vais vous parler d'une artiste. Elle est fille d'un musicien de jazz. Elle s'appelle Suzanne K. Quattrocchio, dit Suzy Quattro. Oui, née le 3 juin 1950 à Détroit, Michigan. Tape à l'âge de 8 ans sur des bons goûts dans le jazz band de son père. À cette époque, son entourage la considère déjà comme un garçon manqué. Sa révélation pour la musique lui vient 14 ans après un concert des Beatles. Ah. Elle commence sa carrière aux États-Unis avec ses sœurs en montant le groupe rock entièrement féminin qui ne sortira que 2 45 tours, aujourd'hui très recherché. Si vous les avez, donc ces 2 45 tours Suzy Quattro, je pense qu'il vous faut les garder précieusement. Le producteur britannique Mike Most la repère en 71 à son attitude cynique, agressive et son look tout en cuir. Il la persuade de s'installer en Angleterre où il la fait signer dans son label. Prise en main par les compositeurs producteurs Mike Chapman et Nicky Chinn, elle connaîtra la gloire jusqu'à la fin des années 70 dans un certain nombre de pays avec des jingles heavy rock tels que Can the Can, que nous écouterons juste après, et 48 Crash ou Devil Gate Drive en 74. Elle classera au total 16 titres dans les hit parades britanniques. À partir de 1975, le glam rock étant passé de mode, sa musique devient plus agressive, plus commerciale et perd de sa substance. Des albums inégaux voient le jour. Puis la suite, son seul gros succès aux États-Unis sera Stumbling In en duo avec Chris Norman en 79. Ce titre sera enchaîné avec son deuxième tube She's In Love With You en 1979. Son seul album solo des années 80 est Meant Attraction et sera un échec malgré ses qualités. Elle met sa carrière de chanteuse de rock de côté en 83 après la naissance de son premier enfant. Elle se lance alors dans une carrière de chanteuse de comédie musicale. Ben oui, elle passe à la comédie musicale, actrice puis animatrice radio, et elle anime toujours actuellement une émission musicale sur la radio BBC Radio 2. Eh oui, elle est animatrice radio comme nous.
Comme nous.
Elle a beaucoup influencé les femmes du monde du rock, donc Joan Jett, que nous passons régulièrement à la radio, qui a reconnu l'avoir prise pour modèle. En effet, Suzy Quattro est l'une des premières femmes rockeuses agressives. Elle fut aussi la rare femme dans le monde du glam rock. On écoute Suzy Quattro et son gros tube Can the Can.
Petite annonce, je vends l'album Can the Can 101,50€. Voilà.
Allez. Moi, je le vends pas, je le garde.
Allez, écoutez.
100% plaisir.
Just Soft Rock.
Music Story.
Yeah.
Bon, finalement, je le garde.
Ken the Ken, Suzy Quattro. Ouais, tu le gardes. Mais moi aussi, j'ai l'album. Alors moi, je l'avais piqué à ma sœur. Parce que
c'est
j'ai une grande sœur. Pour rien vous cacher. Et elle avait donc Suzy Quattro, pochette noir et blanc avec Suzy Quattro habillée de cuir. Tout en cuir noir.
Ça, c'est le 45 tour.
Non, c'est le 33 qui a la même,
moi,
la même pochette.
45.
Le 33, il reprend la même pochette. Et hop, j'avais piqué à l'époque et je l'ai gardé.
Ah, c'est pas bien.
Parce que si elle écoute l'émission, elle va se dire ça y est, je sais où il est.
Je sais où il est.
Et voilà, voilà. Allez, on termine cette émission par un groupe également très connu, le groupe de rock Doobie Brothers, créé en 1969, fondé par le chanteur-compositeur Tom Johnston. Les Doobie Brothers ont commencé une carrière bien remplie. Le groupe débute et commence à tourner en 1970 en Amérique du Nord. Leur musique énergique leur permet de régulièrement faire des concerts pour des rassemblements de Hells Angels, carrément. Ils étaient chez les Hells Angels à l'époque. Comme quoi, ils se sont bien assagis quand on écoute la discographie des Doobie Brothers. Mmh. En 1974, l'état de santé du fondateur du groupe, également compositeur et chanteur, Tom Johnston, s'aggrave. Et il doit laisser sa place au chanteur-compositeur, ce qui a amené, vous allez, quand je vous prononcer le nom, vraiment toute la qualité dans le groupe, de tout ce qui s'en est suivi, c'est Michael McDonald, qui s'imposera comme le nouveau leader du groupe, et oui, rien que lui. Le plus gros succès du groupe vient en 1978 à l'album Minute by Minute, avec McDonald aux manettes. Cette période signe également une grande valse des musiciens au sein des Doobie Brothers, voyant de nombreux artistes défiler au sein du groupe. À partir de 1982, le groupe ne travaille même plus ensemble et se mettent d'accord pour se mettre en pause. En 87, toutefois, 11 des 13 membres des Doobie Brothers rejoue ensemble à l'occasion d'une quête de dons pour les vétérans du Vietnam. Depuis, le groupe sort ponctuellement en album ou best-of et se fait voir à divers galas ou occasions spéciales en attendant d'être accepté au Rock and Roll World of Fame. Ce Doobie Brothers, traduction les frères pétards, bah voilà, je l'ai appris aussi, les frères pétards, durant les années 70 ont signé quelques standards tels que Listen to the Music, Jesus is Just Alright, Long Train Running que nous avons écouté et What a Fool Believe. Et on écoute donc, pour terminer cette émission, Long Train Running.
Et on se retrouve donc le mois prochain.
Le mois prochain, voilà. Même endroit,
quatrième
même
quatrième jeudi, ne l'oubliez pas.
Quatrième jeudi du mois d'avril. Voilà, faites-nous part éventuellement sur Facebook de ce que vous pensez de cette émission. Voilà, tout simplement, on sera ravis de vous répondre et de vous faire plaisir éventuellement s'il y a des gros groupes de ces années-là que vous souhaitez écouter dans cette émission.
Au revoir Jean-Pierre, au revoir Alain.
Salut
revoir
Willy, Alain, salut Jean-Pierre.
Au revoir, au revoir à tous.
Bye bye.
RTVFM, vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant.
Down around the corner, a half a mile from here.